m'appelle Antoine, je travaille chez Kumbit, et puis mon intérêt pour Wikileaks se trouve au niveau de la liberté de la presse. Je m'intéresse au wiki, mais aussi surtout à la diffusion d'informations libres, puis au réseau ouvert, là, finalement, où est-ce que tout le monde a accès. Donc Wikileaks m'intéresse là, depuis ses débuts, en fait.
Oui, bonjour, moi je m'appelle Anne. En fait, j'ai étudié pendant quelques années les wikis et je me suis surtout intéressée en fait à leur dimension politique. Alors quand j'ai entendu parler de Wikileaks qui se présentait comme un wiki avec un objectif clairement politique, en fait, je me suis trouvée intéressée par ce projet et puis par ces évolutions en fait récentes. Voilà.
Alors, menaces terroristes cybernétiques pour certains, notamment les gens qui se tiennent à la Maison-Blanche, là, un petit peu au sud, et espoir de la victoire de la guérilla Internet sur le méchant empire pour d'autres, là, je caricature. Ouais. Mais en gros, prenons quelques minutes pour parler du contexte puis de l'historique de Wikileaks.
En fait, le nom de domaine a été enregistré en octobre 2006 et les premières fuites datent de décembre 2006. Au début, le projet est lancé par un petit groupe de personnes qui se donnent un comité d'évaluation avec des personnes assez impressionnantes, des militants, de l'information. En fait, le projet est de donner en fait une plateforme pour des fuites compromettantes. Et très clairement, au début, le projet aussi s'identifie à Wikipédia, s'identifie au fonctionnement de Wikipédia avec l'idée que n'importe qui va pouvoir non seulement faire des fuites sur ce site de manière anonyme et sécurisée, mais aussi et surtout travailler sur l'analyse des documents. Et en fait, c'est ça qu'il y a de Wiki au début, c'est que monsieur, madame, tout le monde, disons, peut arriver, est encouragé en fait, il y a même un espace pour les volontaires, encouragé à lire les documents, les résumer, les valider, donc faire tout un travail d'édition finalement. Puis en gros, petit à petit, ce travail collectif, l'édition ne se fait pas exactement comme attendu. De plus en plus, on fait appel à des experts finalement dans le travail de l'information, à des journalistes. Et également, petit à petit, et ça apparaît moins clairement, le site fonctionne, disons, de moins en moins comme un wiki. En fait, j'ai jamais réussi à trouver les dates précises où on dit que c'est plus un wiki, mais disons que entre 2009 et 2010, il y a moins en moins de fonctionnalités de type wiki, comme la possibilité pour tout le monde d'éditer le site, l'accès aux différents changements, aux changements récents du site. Tout ça disparaît petit à petit. Et jusqu'à ce que dernièrement, en fait, bon, maintenant, en fait, on va parler des dernières modifications. Il y a plus vraiment de site Wikileaks comme tel, en tout cas central. Mais disons quand il existait, finalement, c'était un petit comité, environ 5 personnes, qui faisaient les dernières vérifications avant de poster les informations sur le site. Donc, on est passé d'un modèle, disons, très ouvert de type wiki à quelque chose de plus en plus fermé, notamment autour d'une espèce d'amertume que ça s'est pas passé comme on voulait, ça n'a pas vraiment fonctionné comme Wikipédia, il n'y a pas eu autant de gens qui ont travaillé à la vérification des articles. Mais sinon, en fait, il y a aussi toute une évolution qui fait que le site a dû physiquement changer de place, se réorganiser, changer d'hébergement pour être finalement la cible de tellement d'attaques que maintenant, il n'y a plus vraiment un site central, mais un ensemble de miroirs, en fait, de Wikileaks.
Light them all up. Come on, fire!
Hey, Roger.
Parmi l'historique de Wikileaks, il faudrait aussi mentionner les grandes fuites qu'il y a eu là, historiquement. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel qui est sorti sur Wikileaks avec le temps. Il y en a beaucoup qui n'est plus disponible non plus, justement parce que le site a été refait là, à plusieurs reprises. Les grosses fuites qui ont mis Wikileaks sur la map, c'est vraiment les choses qui se sont attaquées à la divulgation de l'information sur la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan. Le premier gros truc qui a vraiment attiré l'attention de beaucoup de monde, c'est la vidéo Collateral Murder. Pour les gens qui l'ont pas vu, vous pouvez aller voir collateralmurder.org. C'est une vidéo d'un hélicoptère Apache, un hélicoptère d'attaque américain, vu du tireur, en fait, qui massacre finalement des populations civiles. Ça a fait un grand bruit parce que c'est vraiment dégoûtant, hein, en fait. Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo-là? On voit vraiment un manque de respect pour la vie humaine. Et puis, bon, suite à ça, il y a eu, je pense que c'était 70 000, là, les Afghan War Diaries, qu'ils appelaient. C'est 70 000 communications des militaires américains qui disent, bon, ben, à tel moment, on a tué telle personne, ou il y a telle personne qui est morte, ou on a été attaqué de tel moment, de telle façon, il y a eu telle explosion, machin. Avec ça, ils ont réussi à retracer qu'il y avait beaucoup plus de pertes civiles que l'armée américaine avait annoncé auparavant. Et puis finalement, là, ça a culminé avec, récemment, c'est les 290 000 corps diplomatiques qui sont en train d'être publiés maintenant. Et où est-ce que là, maintenant, il y a vraiment, la pression est immense envers WikiLeaks. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'on connaît de plus connu. Mais en fait, WikiLeaks ont publié des fuites sur plein d'autres pays, sur plein d'autres situations. Par exemple, les paradis fiscaux d'une banque suisse qui s'appelle Julius Baer. Dans les îles Caïmans, il y a eu le premier gros truc, je pense, en novembre 2006, c'était le président du Kenya ou quelque chose comme ça. C'était par rapport au Kenya, si je me souviens bien.
Un déversement de polluants au Kenya et qui avait été soigneusement caché.
Donc c'est ça. En fait, WikiLeaks s'adresse pas seulement aux fuites concernant le gouvernement américain. Donc, WikiLeaks, c'est un des rares endroits où est-ce qu'on a pu consulter les documents secrets de l'Église de la Scientologie, pourquoi ils ont été poursuivis par l'Église de la Scientologie pour violation de copyright, par exemple. Ils ont publié, c'était quoi la liste de censure du gouvernement australien. Ils censuraient l'Internet, puis ils publiaient c'était quoi cette liste-là, parce que justement, le gouvernement australien censurait l'Internet en disant on empêche les pédophiles, mais là, quand WikiLeaks a publié la liste, il s'est avéré qu'il y avait bien plus que des sites pornographiques, en fait, sur cette liste-là. Par exemple, WikiLeaks a été rajouté sur la liste une fois que la liste a été publiée sur WikiLeaks. Donc, c'est des simples exemples, mais ça s'est continué comme ça, là, jusqu'à tout récemment.
Tu l'as touché un petit peu, mais on voulait quand même prendre un peu le temps de voir comment ça a fonctionné. Puis aussi, en ce moment, dans la grande vague médiatique, tout est concentré sur un personnage qui est présenté comme quasiment le seul et unique chef fondateur de WikiLeaks, sur qui tous les yeux sont tournés avec la glauquitude d'une histoire d'agression sexuelle en plus, histoire de faire vendre du journal.
Bon, en effet, Julian Assange est en effet cofondateur de WikiLeaks et c'est vrai que c'est un hacker qui a déjà fait plusieurs actions assez reconnues, donc il est australien, et qui a une espèce de vision, notamment au début, en fait, quand il lance WikiLeaks, avec deux personnes, quand WikiLeaks est fondé en 2006, en fait, il dit très clairement qu'il s'inspire de Daniel Ellsberg, donc qui avait, pendant la guerre du Vietnam, publié des documents qui compromettaient finalement le gouvernement actuel. Donc, il y a une espèce de volonté de s'inspirer de grandes figures historiques pour continuer proposer un site où ce genre de publication à charge politique forte vont pouvoir se faire régulièrement. Mais en fait, très rapidement, il y a une équipe qui se met en place. Mais il se trouve que Julian Assange est en fait une personne avec un certain charisme médiatique. Donc, il joue un petit peu en fait le rôle que les médias recherchent, qui est de trouver un responsable pour ce qu'il y a derrière WikiLeaks. En fait, on retrouve un petit peu la même chose, par exemple, derrière Wikipédia. Il y a souvent des reportages qui sont faits sur Wikipédia et on estime que le fondateur de Wikipédia est responsable et en charge de tout ce qui se fait. Donc, c'est vrai que Julian Assange est en fait l'éditeur en chef, donc il prend certaines décisions stratégiques, mais qui doivent être faites normalement en comité. Et en fait, depuis le début 2010, il y a des clashs qui se font à l'intérieur de ce comité, avec notamment une des personnes qui s'était ralliée à WikiLeaks de façon assez médiatique depuis 2008, je crois, qui est Daniel Schmidt, qui en fait annonce dès novembre qu'il va quitter WikiLeaks parce qu'en fait, il n'est pas à l'aise avec la façon dont ça fonctionne et avec le côté un petit peu trop charismatique, voire dictatorial de certaines décisions faites par Julian Assange.
Donc, en fait, qu'est-ce qui est intéressant avec le fonctionnement de Wikileaks, si on peut dire, c'est que Wikileaks, c'est juste un site web, c'est une organisation, mais en fait, il y a plusieurs personnes derrière ça. Il y a Julian Assange, il y avait David Schmidt, mais il y a aussi un paquet de journalistes, certains qui sont affiliés au Guardian ou au New York Times, qui collaborent au travail de publication de ces documents-là. Donc, c'est pas juste un terroriste, là, si on veut, mais c'est une organisation complète. Et même passé ça, il y a d'autres organismes comme Wikileaks, certains qui existent depuis plus longtemps que Wikileaks. Je pense à un site qui s'appelle cryptome.org qui diffuse des documents du genre aussi, qui existent depuis un certain temps. Et David Schmidt a parti son... Ils ont relancé un autre organisme qui se veut plus ouvert que Wikileaks, parce que Wikileaks a une espèce de tendance à être un peu cryptique là, dans leur fonctionnement, puis cacher des trucs. Ben, pas cacher des trucs, mais de rien dévoiler vraiment proactivement, ce qui est un peu paradoxal. Donc David Schmidt et d'autres personnes ont lancé un site qui s'appelle openleaks.org qui vont commencer à publier des choses bientôt. Mais sinon, en général, on peut dire que tout le mouvement hacker là, depuis une vingtaine d'années constitue une source inépuisable de documents du genre. En fait, tous les gens qui sont un peu intéressés par l'information puis qui veulent révéler des choses au grand public sont des menaces potentielles au secret si bien gardé d'État, en fait.
J'ajouterais aussi quelque chose d'intéressant pour comprendre la situation, c'est que en mars 2010, en fait, est publié sur Wikileaks un rapport qui date de mars 2008 et qui est en fait un rapport de contre-espionnage anti-Wikileaks et en gros qui explique comment décrédibiliser Wikileaks parce que ça commence à faire des vagues. Une des façons de faire, c'est d'abord de démontrer que c'est dangereux de publier sur Wikileaks. Et d'ailleurs, peu de temps après, en avril, finalement emprisonné un potentiel auteur de la grosse fuite de la vidéo Collateral Murder. Et une autre façon, en fait, de déstabiliser Wikileaks, c'est de poursuivre, finalement, les personnalités qui seraient derrière ça. Et j'ai l'impression que je statuerai pas sur, en fait, l'affaire en cours concernant Julian Assange, mais c'est certain qu'il y a une volonté médiatique de décrédibiliser cette personne.
On s'entend que c'est assez rare quand même que des histoires de ce genre fassent la une des journaux internationaux. Là. C'est pas qu'on serait pas contre que ce genre d'histoire fasse la une, là, mais c'est un petit peu louche quand même que ce soit en ce moment que ça se passe. Mais peut-être sur une autre situation sur laquelle ça vaut peut-être pas non plus la peine de s'étendre trop, mais qui est quand même intéressante, justement, quand ils ont puni un soldat de junior, en fait, là, Manning, je pense, qui donc se fait condamner pour être le coupable d'à peu près toutes les fuites qui ont pu avoir lieu sur le sujet de l'Irak. Notamment, il y a un hacker qui semblerait avoir été la personne qui l'aurait dénoncé.
Il disait finalement que pour détruire Wikileaks, il faut que les gens qui font des fuites pensent qu'ils vont se faire pogner. En bref, là, c'est vraiment ça. Et donc, ils ont dit, faut que quelqu'un se fasse pogner. Et puis là, je pense que c'est quelque chose comme un mois plus, c'est comme un an plus tard, quelque chose comme ça. Pouf, il y a exactement ça qui arrive, en fait. Il y a un private que personne n'avait jamais entendu parler avant. Apparemment, il aurait leaké tout ça à Wikileaks, mais ça, on le sait pas parce qu'il y a pas eu le procès est pas terminé, même pas commencé, à ce que je sache. Lui, il a eu la brillante idée d'aller se vanter à cette histoire-là à un hacker ou un ex-hacker, notoire, qui s'appelle Adrian Lameau, qui a eu de nombreux démêlés avec le FBI. Certains disaient qu'il était un informateur avant ce moment-là. Maintenant, les gens disent qu'ils sont un informateur. Et en fait, c'est un informateur ou en plus précisément, lui, il dit qu'il est un témoin dans une cause criminelle.
To set the record clear, I'm not an informant. I'm a witness in a criminal case.
Manning aurait révélé à Adrian Lameau qui aurait fait tout ça, que c'est lui qui aurait leaké tout ça. Il aurait mentionné les 270 000 câbles diplomatiques et tout ça. C'est quand même extrêmement étrange que un private, là, quelqu'un au renseignement de l'armée américaine, spontanément, décide d'aller voir Adrian Lameau. De toutes les personnes qui auraient pu parler de ça avec, pourquoi qu'il est allé voir cette personne-là? Et Lameau, lui, il dit qu'il avait déjà écrit sur Twitter un tweet qui disait « Yeah, je supporte Wikileaks ». Une fois. Et que c'est comme ça que Manning l'aurait trouvé.
J'ai fait quelques recherches au moins sur la question juridique, puis juste pour comme clarifier la chose, j'ai pas pu trouver d'autres infos, d'autres charges contre Assange à part celle d'agression sexuelle. déposé en Suède. Fait que présentement, il n'y a pas d'autres charges contre lui. Les discussions autour de ça sont tournées surtout autour de l'espionnage, en fait, mm-hmm. qui serait prosécuté sous l'acte d'espionnage des États-Unis, l'acte de 1917.
Puis au niveau des peines, là, on parle, Bradley Manning, présentement, il fait face à la cour martiale. On parle de 52 ans de prison pour lui, comme... basic, là. Je sais pas si c'est le minimum, maximum. On parle autour de 52 ans de prison. Et Daniel Ellsberg, lui, avait été poursuivi en vertu de l'acte d'espionnage américain. Et lui, c'était 115 ans de prison auquel il faisait face ce niveau-là.
L'espionnage aux États-Unis, c'est effectivement un truc qui te fait disparaître longtemps dans le système carcéral. Why don't we plant a mechanic virus and erase the memory of machines that maintain this capitalist dynasty? And yes, I recognize the irony. The system I oppose affords me the luxury of fighting the hand that feeds. That's exactly why privileged sparks like me should feel obliged to whine and kick and scream. Yeah, till everyone has everything they need.
Sans se prétendre des experts de juridictions nationales et internationales, c'est quoi les possibilités, je veux dire, à part se faire mettre sur la liste des groupes terroristes qui a l'air à quasiment s'enligner?
Ah, mais ça, c'est. Moi, je trouve ça, c'est absolument fascinant. Parce que présentement, il n'y a aucune attaque légale contre Wikileaks. Il y a un conseiller du gouvernement Harper qui a demandé son assassinat.
Well, I think Assange should be assassinated, actually. I think Obama should put out a contract and maybe use a drone or something.
C'est Flanagan, il disait qu'il fallait assassiner Julian Assange ou lui envoyer un drone parce que ça fallait pas permettre ça, la liberté pas la liberté d'expression, mais que c'était un terroriste finalement, puis qu'il fallait empêcher ça. Mais ça, la liste continue. Là, il y a Sarah Palin qui a demandé son assassinat. Il y a...
WikiLeaks is a foreign organization. The information that it disseminates is used by terrorist organizations. They know it's being used by terrorist organizations. That will be used to kill Americans.
C'est Peter King qui demandait à mettre WikiLeaks sur la liste des organisations terroristes. Mike Mullen, c'est le directeur du Joint Chief of Staff. Je sais pas trop sur quoi cette affaire-là, mais ça a l'air d'être le boss des boss de l'armée.
The whistleblowing website WikiLeaks may have blood on its hands, according to the Pentagon.
Qui disait que WikiLeaks avait du sang sur les mains. Que moi, je trouve ça extraordinaire que l'amiral, finalement, des armées américaines puisse aller dire à WikiLeaks qu'ils ont du sang sur les mains alors qu'ils envoient des jeunes Américains se faire tuer constamment sur les champs de bataille. C'est absolument extraordinaire. Puis il y en a un autre qui est sorti récemment qui s'appelle Bekele. Puis moi, je les cite juste parce que je trouve ça absolument pas drôle, mais moi, je trouve que c'est complètement ridicule. Bekele, lui, il a dit... puis lui, c'est... Je sais plus trop. Il est sur le comité de la défense... Parce qu'ils ont tout plein de comités de défense nationale. Hein, fait que là, je sais plus c'est lequel le nom, mais lui, il disait qu'il était pas pour la peine de mort, mais vu qu'il était pas pour la peine de mort, fallait assassiner Julian Assange illégalement. Lui, il disait que Julian Assange était un terroriste qui avait brisé toutes les lois des États-Unis, que c'était un traître. Évidemment, Julian Assange n'est pas citoyen américain, donc c'est impossible qu'il soit un traître à la nation américaine parce qu'il est pas américain. Mais bon. Cet inventaire-là brosse un tableau là, au niveau légal, là, présentement. La EFF, l'Electronic Frontier Foundation, supporte WikiLeaks. Il y a Reporters sans frontières qui supporte WikiLeaks. Daniel Ellsberg, on en a parlé plus tôt. Il y a le Internet Society. Il y a Wired qui s'est exprimé pour eux. Il y a Lula da Silva, le président du Brésil. Le président russe et Hugo Chavez aussi sont prononcés pour ça.
WikiLeaks lá, como é? Hein? WikiLeaks? O rapaz foi preso e eu não estou vendo nenhum protesto contra a liberdade de expressão.
Donc là, le problème au niveau légal, c'est qu'on est dans une cause qui est internationale finalement. WikiLeaks était hébergé aux États-Unis, il l'est plus. Toutes les ressources qui étaient aux États-Unis, on parle du nom de domaine wikileaks.org, de leur compte PayPal, de leur accès à Visa et Mastercard ont été fermées après des pressions du gouvernement américain, même si ces compagnies-là nient que ça a été sous des pressions politiques. Donc tous ces éléments-là ont été fermés aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il y a comme plus de cause parce que WikiLeaks c'est pas une entité légale aux États-Unis. Wikileaks est une entité légale en Suède présentement, c'est-à-dire que les serveurs sont hébergés en Suède. Julian Assange est détenu présentement en Grande-Bretagne, donc il y a une cause légale aussi à ce niveau-là. Provoquant toutes ces attaques-là, tout ce que ça a fait au niveau, puis on parle même pas encore du niveau légal, on parle juste au niveau technique, ça a complètement explosé le nombre de miroirs. Présentement, il y a 1600 ou 1500 sites qui ont une copie du Cablegate, là, de toutes les archives diplomatiques. Et donc, c'est devenu pratiquement impossible de censurer tous ces sites-là, à moins d'entamer des procédures légales dans tous les pays où est-ce que ces sites-là sont hébergés, ou comme d'autres ont suggéré, de lancer une attaque internet, de d'écrire un virus qui irait détruire toutes ces données-là. Il y a quelqu'un qui a honnêtement suggéré ça. Et on a fait le travail là, qui avait été moins fait, puis pourquoi Wikileaks avait été critiqué avant, mais on a fait le travail d'essayer de protéger les gens qui étaient dénoncés là-dedans. Là, on peut se questionner sur l'avis de Hillary Clinton qui dit que c'est une menace à la démocratie, Wikileaks. Moi, j'ai l'impression qu'elle disait que c'était une menace à la démocratie puis aux intérêts américains, mais on voit très bien c'est quoi la démocratie puis les intérêts américains. C'est la censure, c'est le secret, et puis les intérêts américains, ben c'est les intérêts commerciaux, c'est de supporter les dictateurs, c'est de ça qu'on parle.
Anne? Wikileaks, comme entité centrale, n'existe plus vraiment. Julian Assange, comme personnalité qui serait au pouvoir de Wikileaks, ben, en fait, actuellement, il n'a plus beaucoup de pouvoir puisqu'en fait, il est en prison. Enfin, toute la volonté d'essayer de détruire le centre, quelque part, de fait, échoué, puisque le projet s'est disséminé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le projet, donc, qui était au début très participatif et très ouvert, donc, qui fonctionnait comme un wiki et qui s'est un petit peu refermé, s'est finalement réouvert et redisséminé. Donc, on pourrait dire maintenant que ça fonctionne comme un réseau. Socialement parlant, on pourrait parler d'un mouvement, quoi. En fait, l'ouverture de OpenLeaks par David Schmidt, a été salué par des gens de Wikileaks en disant « Oui, ben allez-y, en fait, on veut ça, on veut que... » Enfin, tant mieux, on veut que ce projet de dénonciation continue. Et ça devient un mouvement mondial de dénonciation, quoi. Fait que finalement, c'est encore pire qu'un objet central avec un éditeur en chef. Ça devient un projet...
Un hydra mille têtes.
C'est encore mieux, tu veux dire.
Oui, c'est mieux.
Ah, mais oui, voilà.
En termes d'analyse politique et sociale, alors on a donné quelques éléments, le fait qu'il y a comme cette réouverture en réseau et le fait qu'il y a quand même des appuis institutionnels majeurs, là, ça semble pas être une fuite qui va pouvoir être colmatée si rapidement que ça. Puis surtout, c'est pas des grandes surprises tant que ça qu'on découvre dans ces câbles, mais c'est un petit peu l'exposition au grand jour de ce que beaucoup de gens dénoncent fréquemment. Si on s'amusait un peu à faire les analystes et aussi un peu les prédictions, quel impact on peut espérer voir?
Il y a quand même un méchant paquet de mois qui arrive, hein, parce qu'on a seulement sorti un millième, là, je pense, ou un dixième des documents. Là, on parle de 300 documents sur 300 000, donc c'est ça. Là, c'est une parenthèse, mais Julian Assange, j'ai écrit un essai, en fait, qui explique comment il voit Wikileaks, c'est quoi la fonction de Wikileaks dans la société. Bref, il se base sur la théorie qu'il y a un complot. Hein, on parlait de théorie du complot plutôt. Là. Bon, quand on parle de théorie du complot, c'est qu'il y a une théorie qui a un complot. Hein? Faut pas trop s'énerver avec ça. Donc, il y a un complot. Il y a très peu de personnes qui contrôlent les ressources naturelles aux États-Unis, au Canada, dans certains pays, qui font la politique, qui règnent, ils contrôlent les médias, ils contrôlent certaines choses. Et ce complot-là fonctionne dans le secret, c'est-à-dire leur agenda officiel n'est pas connu. On sait pas exactement c'est quoi qu'ils veulent faire. Ils ne révèlent pas à personne. Ils essaient de garder le plus caché certaines choses et de révéler au public une certaine autre chose. Donc, de garder cette frontière-là complètement opaque, puis étanche, puis que l'intérieur du complot est pas connu. Au travers de Wikileaks, l'idée, c'est que l'intérieur du complot devient connu. Donc, toute l'idée derrière publier les corps diplomatiques, c'est de faire que avant, quand les diplomates se disaient sur le coin d'une table, ils disaient « Ah oui, tu sais, on sait bien que les Israéliens ont la bombe », mais là, quand c'est publié officiellement, c'est « Oups, là, on peut plus faire comme si de rien n'était. » Ça devient public. Donc, ça force la conspiration à s'effondrer d'elle-même. parce qu'elle est révélée. Qu'est-ce qui fait qu'une conspiration est une conspiration? C'est qu'elle est cachée. Donc WikiLeaks, l'idée, c'est d'ouvrir le système, en fait. Le slogan, c'est « We open governments ». Donc, on ouvre les gouvernements. C'est l'idée d'avoir un gouvernement qui est public, où est-ce que tout le monde a accès à l'information, puis où est-ce que tout le monde peut prendre ses décisions. Ce qui est quand même, certains diraient, les fondements de démocratie. Donc, avoir des médias qui font leur job, finalement, là, qui n'est plus le cas parce que les médias sont contrôlés par les corporations ou le complot, si on veut s'avancer. WikiLeaks, puis en fait, moi, je m'avancerai plus loin, là, parce que WikiLeaks, c'est juste un des phénomènes. C'est l'Internet, en fait. On n'a plus besoin d'un journal qui coûte cher à produire, qu'on doit diffuser à tous les citoyens individuellement pour propager de l'information. Il suffit de le mettre sur un site web. C'est accessible à peu près à n'importe qui connaît un peu la technologie, et on peut diffuser de l'information très, très facilement. Donc, ça ouvre les portes à une société qui est fondamentalement plus ouverte, en fait. Moi, c'est le changement politique que je vois s'imposer au travers de ça.
Anne, en conclusion politique?
Je rejoins un petit peu l'analyse d'Antoine, mais en étant peut-être un peu moins optimiste. Enfin, je pense qu'actuellement, il y a un bras de fer médiatique qui est en train de se jouer avec des gouvernements qui essayent encore de garder le contrôle et qui essayent encore de démontrer que WikiLeaks est un phénomène. Ils essayent de le restreindre à un site web exceptionnel, quelque part, supporté par une personne assez exceptionnelle. Et donc, ils essayent de faire en sorte que ça ne soit pas l'épicentre d'un mouvement et juste quelque chose qui va être endigué et qui ne fera pas de suite. Et je pense que ce n'est pas encore gagné et que les combats... le combat est actuellement sur la table. J'espère qu'il y aura des changements politiques, mais aussi des changements au niveau de une prise de conscience plus large chez les lecteurs habituels des informations par rapport à ce qu'on leur donne à lire en général, en fait.
C'est vrai que je suis peut-être un peu optimiste, en fait. pour être plus réaliste, je pourrais dire que ça radicalise, en fait, cette question-là. Ça va forcer le gouvernement à censurer les journaux, puis tous les journaux. Il y a des gens qui ont appelé à censurer le New York Times, même. Et où ça va ouvrir les gouvernements. Ça force à poser cette question-là. Est-ce qu'on veut des gouvernements dictatoriaux, secrets, donc on sait pas leur motivation, on sait pas comment ils fonctionnent, ou est-ce qu'on veut des gouvernements ouverts, puis publics, qui appartiennent à tout le monde?
Je pense que beaucoup de ce qu'on voit présentement qui cible WikiLeaks et Assange très particulièrement, je pense que c'est supposé aussi être un exemple, un message à d'autres gens qui voudraient faire de même, une tentative de donner peur aux gens. On sait que les États fonctionnent de même, puis je pense que ce serait bien de ne pas oublier ça, ni de se faire intimider.
Alors ne nous laissons pas intimider par les menaces d'assassinat et de prison à vie.
On n'est pas encore menacés, là, ce que je sache.
Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le gouvernement songe à tous les jours, on s'avance. On ferme les yeux, puis on...